France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Benjamin Netanyahou se dit victime d'une chasse aux sorcières. Le premier ministre israélien fait face à une possible inculpation dans le cadre de 3 affaires de corruption, annonce du procureur général hier en Israël, et qui pourrait fragiliser Benjamin Netanyahou. Il brigue un 5e mandat et les législatives sont prévues dans 40 jours. Au Sénégal, Macky Sall remporte lui la présidentielle. Le président sortant obtient plus de 58% des suffrages selon la commission du dépouillement du scrutin. Les 4 adversaires dans l'opposition rejettent ces résultats provisoires, mais ils n'introduiront pas de recours, disent-ils. Pyongyang dit avoir fait une proposition plutôt réaliste à Donald Trump et souligne n'avoir demandé qu'une levée partielle des sanctions. Hier matin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain se sont quittés au Vietnam sans conclure d'accord sur la dénucléarisation de la péninsule. Ils continueront leurs discussions fructueuses, promet la Corée du Nord. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui dans plusieurs villes algériennes. Depuis une semaine, avocats, étudiants, journalistes protestent contre le 5e mandat brigué par le président Abdelaziz Bouteflika. Hier, des journalistes justement ont été arrêtés plusieurs heures après avoir participé à Alger à un rassemblement contre la censure en Algérie. Ils sont désormais 3 hommes à accuser d'agression sexuelle l'ambassadeur du Vatican en France, le nonce apostolique Luigi Ventura. Le 3e homme a déposé sa plainte hier matin au Canada. Luigi Ventura, un prélat italien de 74 ans, est déjà visé par 2 plaintes en France pour des faits similaires qui se seraient produits en 2018 et en 2019 lors de la cérémonie de vœux de la nouvelle année de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et puis, la suite du grand débat national. Emmanuel Macron a dialogué jusque tard hier soir avec près de 400 femmes à Pessac, près de Bordeaux. Prise à partie par une gilet jaune, il a refusé de mettre un collier orné d'un gilet jaune miniature. Aujourd'hui, le président de la République rencontrera des élus de la région et notamment Alain Juppé, maire de Bordeaux. Encore aujourd'hui, il rejoindra dans quelques jours le Conseil constitutionnel.
France Culture présente Fahrenheit 451, un concert fiction adapté du célèbre livre d'anticipation de Ray Bradbury. Dans une société du futur où les pompiers brûlent les livres et où la lecture est considérée comme un acte antisocial, le héros, Montag, se prend à rêver d'un monde différent et rejoint la résistance des hommes livres. Avec notamment Judith Chemla, André Wilms et Pascal Rénéric. Fahrenheit 451, samedi 2 mars à 20h30 à la Maison de la Radio à Paris. Programme et réservation, maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem pour parler ce matin de bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec à la coordination Corinne Amar, à la réalisation Vincent Abouchard, à la prise de son ce matin Cédric Chatelus. Le réveil culturel tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Bonjour tout le monde, vous pouvez nous écouter quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. La ZAD, c'est plus grand que nous, c'est le titre de la bande dessinée d'aujourd'hui, sélectionnée par nos soins aujourd'hui, les 2 auteurs, Thomas Azuelos, qui nous vient de Marseille, et Simon Rochepot, qui nous vient de Bretagne, mais d'où ?
De Rennes.
De Rennes sont avec nous, merci d'être venus. La bande dessinée donc est éditée chez Futuropolis, et on peut dire que c'est une bande dessinée en immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Alors, résumons l'affaire pour ceux qui vont nous écouter dans quelques années. En 2000, l'ancien projet d'aéroport du Grand Ouest Est est réactivé dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Mobilisation, médiatisation de ce projet, controversé. En 2009, après tous les recours, le rapport de force entre les habitants et les forces de l'ordre s'intensifie et, comme autrefois avec le Larzac, Notre-Dame-des-Landes devient comme une terre promise pour des centaines de jeunes gens de la France entière, issus des luttes politiques écologiques ou anti-autoritaires, ou à la recherche de modes de vie alternatifs. Et ces militants commencent à venir s'installer sur la zone promise aux grands travaux. Et le 16 octobre 2012, le gouvernement socialiste, le gouvernement héros, lance l'opération César, qui a pour but d'évacuer par la force Notre-Dame-des-Landes et d'en chasser les occupants qui s'opposent au projet de construction de l'aéroport. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de résistances et enfin, le 17 janvier 2018, le projet est officiellement abandonné. Entre ces deux dates, les zadistes ont résisté, ont inventé de nouvelles formes de solidarité, souvent avec l'aide des paysans restés sur place. Et la bande dessinée de Thomas Azuelos et de Simon Rochepot, éditée par Futuropolis, La ZAD, c'est plus grand que nous, est entièrement consacrée à ce combat des zadistes. Alors, tout est documenté, mais aucun personnage de la bande dessinée n'est réel, dans le sens où vous avez décidé de passer par la fiction pour raconter ce que vous avez vu. Parce que vous êtes allé sur place.
Oui, on est tous les deux.
Simon Rochepot.
Oui. D'abord, moi, à partir de 2015, et j'ai passé plusieurs moments, plusieurs journées, deux jours, trois jours par-ci par-là, mais sur une période assez longue d'un an, parce que je suivais en fait un collectif qui commençait à s'installer pour faire une conserverie sur la ZAD, et donc qui complétait aussi tout ce qui existe déjà sur la ZAD, pour faire des bocaux, pour collecter les légumes, les mettre en conserve et les redistribuer au moment où il n'y a plus de légumes dans les jardins.
Et là, vous flairez le bon coup pour faire une bande dessinée, ou vous y allez en tant que militant complètement convaincu par la cause ?
Pas du tout, pas complètement convaincu par la cause, mais une cause qui me pose beaucoup de questions en fait. J'y vais pour observer le quotidien de ces gens-là, c'est-à-dire que j'ai aucune idée de la façon dont eux-mêmes vivent sur la zone, étant donné qu'on leur... Je pensais que par exemple qu'ils n'avaient pas du tout d'électricité, je ne savais pas comment ils se nourrissaient, comment ils se logeaient tout simplement, comment ils construisaient leurs habitats.
Et comment ils vivaient entre deux moments médiatiques, entre deux affrontements.
Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font entre deux moments médiatiques ? Quelle est leur vue en fait, sachant qu'effectivement il y a toujours cette urgence chez eux de ne jamais savoir quand est-ce que la police va venir les déloger, ne jamais avoir une longue vision quoi. Donc c'est vraiment dans ces moments-là que je suis allé les voir. Et je suis rapidement tombé sur une personne qui avait envie de... Bon, qui est Chloé, du coup, dans le livre, enfin, le personnage très inspiré de Chloé. Et cette personne avait très envie de me raconter son expérience. Après, donc, j'ai collecté beaucoup de témoignages, mais j'ai pas vécu l'expérience physiquement. Et au moment où j'ai proposé le scénario à Thomas et qu'on est allé tous les deux sur Azad, je me souviens d'une remarque de Thomas qui me dit « Moi, il faut que je vive ça physiquement, quoi. Faut que j'y aille et je voudrais ressentir dans le corps ce que ça fait de vivre sur Azad, quoi. »
Et du coup, Thomas Azuelos, vous y allez quand avec Simon Rochepot ?
On y est allé une première fois ensemble quelques jours. C'était
l'été.
Tout début du projet,
l'été,
printemps ou ouais. Été, ouais. Et en fait, moi, il m'a fallu un moment pour réaliser que vraiment, il me manquait un vécu fort, et d'autant que plus j'avançais dans le sujet, plus le sujet me touchait. Et donc, j'y ai passé plusieurs semaines à l'automne, et puis j'y suis retourné à l'hiver, enfin, quelques semaines par-ci par-là.
En vivant avec les zadistes.
Oui, le but n'était pas du tout de dessiner, le but était de passer mon quotidien avec des gens, de tisser des relations avec eux, de faire les chantiers avec eux, de vraiment ressentir ce quotidien.
Une fois de plus, Thomas Azuelos, pour la même question, vous y allez pour essayer de vivre une expérience avec comme idée d'en rendre compte dans une bande dessinée, ou vous y allez aussi parce que vous êtes sympathisant de la cause et que vous voulez vivre cet événement ?
Là, très clairement, c'est les deux. À la différence près que au moment où j'y vais, moi, ça se passe en 2017. Et en fait, on raconte des événements qui se passent quand même plus précisément en 2013. C'est-à-dire au début, au moment où la ZAD se constitue en tant que la ZAD qu'on va connaître pendant les 5 années entre 2013 et 2018. Donc j'ai quand même un temps de retard par rapport aux événements, c'est-à-dire je n'ai pas vécu directement les événements de 2013, par contre j'ai vécu un petit peu ceux de 2018, des expulsions de 2018, qui m'ont donné clairement un aperçu de la brutalité et l'accélération des événements au moment où d'un seul coup l'État décide de frapper fort, tout change et toute la ZAD se reconfigure entièrement autour de la résistance, ça c'est... Mais... Dans l'idée, quand même, précisément avec Simon, on voulait raconter un moment qui nous intéresse particulièrement. C'est le moment où, début 2013, les gendarmes se retirent. La fin de l'opération de gendarmerie est terminée. Et une fois que les gendarmes sont partis, les zadistes pris au sens large, c'est-à-dire y compris les paysans historiques, se retrouvent entre eux et doivent s'apprivoiser en dehors de l'opposition à un ennemi, et donc doivent s'apprivoiser, doivent inventer leur mode de relation, voilà, comment on vit ensemble quand il y a plus de police, de justice et d'État, et sur quoi se construisent les communs et la gestion des communs, puisque c'est ce qui est en même ce qui est au centre des préoccupations de la ZAD. C'est la gestion du commun. Et donc tous ces frottements, tout ce vivre ensemble, qui sont en amont même de la question politique, puisque c'est vraiment une question de vivre ensemble, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est ça que je voulais raconter. Y compris aussi dans les tensions, y compris, mais comment ils arrivent à dépasser et transcender toutes ces tensions-là.
Bien sûr, cette bande dessinée, on voit bien que ça a été documenté, mais est-ce que tous les personnages qui avancent plutôt comme des personnages de fiction renvoient à des personnages que vous avez connus, côtoyés? Et pourquoi d'ailleurs ne pas avoir opté pour la bande dessinée de témoignages ou la bande dessinée reportage?
Nous, on a envie de, quelque part, en tant qu'auteur, on a envie de pouvoir jouer avec les personnages. Et eux, d'autre part, n'ont pas envie, tiennent aussi à leur anonymat. Donc, il était hors de question, par exemple, de les nommer par leur vrai nom. Donc, on a pris, par exemple, pour faire un seul personnage, on en a pris plusieurs qui sont, on va dire, assez typiques de certains personnages sur la zone. On a pris comme ça quelques caractères pour former une trame, en fait. Et notre souci, nous, c'est vraiment de raconter une histoire. C'est qu'elle soit intéressante, c'est qu'il y ait une dramaturgie dedans, donc on se permet de rassembler les histoires, de les condenser. Par contre, tous les événements qu'on raconte dans le livre sont vrais.
Et tous les paysages sont réels, du coup, parce que c'est très important la place que vous donnez à la nature, au paysage, Thomas Zuelos, dans la ZAD, c'est plus grand que nous.
Oui, tout à fait, bah, les paysages sont vrais. Je tenais à ce que les chapitres soient systématiquement introduits par un animal ouais. Aussi... parce qu'il donne un autre point de vue, c'est-à-dire il s'agit aussi du rapport entre un groupe et le territoire sur lequel il s'ancre, et que ça, c'est une des données fondamentales, c'est que c'est aussi des gens souvent très jeunes au départ, qui se sont rassemblés et qui ont décidé de vivre ensemble et de s'ancrer sur un territoire. Donc il fallait que le territoire, évidemment, ait son importance. Et pour parler de la question de la fiction... Il y avait aussi quelque chose de plus, c'est que je voulais que non seulement les personnages de fiction concentrent plusieurs figures réelles concentrent plusieurs figures, mais que aussi on puisse parler de l'imaginaire de la ZAD. Et l'imaginaire de la ZAD, c'est quelque chose de très important aussi bien pour les habitants de la ZAD eux-mêmes, qui se construisent leur propre imaginaire, un imaginaire qui est lié à la lutte, qui est lié à toute une série d'enjeux. Et c'est un imaginaire qui est aussi très important pour le monde extérieur, parce que ça a été un signe, ou c'est toujours un signe d'espoir pour beaucoup de gens, pour des raisons directement politiques ou juste parce que les gens sont sympathisants. En tout cas, l'imaginaire produit par la ZAD est quelque chose de très important. Donc pour traiter cet imaginaire-là, il fallait pouvoir utiliser des personnages qui soient des personnages de fiction. C'était quand même beaucoup plus évident.
Et puis trouver aussi le moteur dramaturgique, Simon Rochepot.
Non, c'est au niveau du paysage, justement, c'est quelque chose qui est très frappant quand on va sur place. C'est que le paysage n'a pas, de fait, bougé depuis 40 ans. Et c'est un paysage magnifique, en fait. La première impression qu'on a en arrivant sur la ZAD, c'est de dire, mais si cette zone devenait totalement bétonnée, quel gâchis ça serait, quoi. Donc, ça, c'est très fort, en fait.
Avec une pointe de fantastique, justement, dans votre approche graphique de ce paysage, Thomas Azuelos. Quand je dis une pointe, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'au bout non plus.
C'est ce que j'appelle l'imaginaire de la ZAD. C'est un imaginaire qui est toujours, qui est une manière de transcender la réalité, et qui est d'en faire quelque chose de plus grand que nous. C'est d'où aussi le titre. C'est une manière de traduire que ce que les gens vivent là-bas a une portée et une importance, y compris en termes de merveilleux, au sens de l'espoir politique, mais aussi au sens d'un merveilleux qui enchanterait le quotidien. Il y a vraiment l'idée d'un réenchantement du quotidien dans une société qui a tendance à transformer les gens en chiffres, etc., etc. Mais vraiment de réenchanter le quotidien. Et cette notion de réenchantement et de merveilleux pour moi est très importante.
Et puis il y a cette idée de huis clos, parce que la ZAD c'est plus grand que nous, c'est le titre de votre bande dessinée, c'est ce que quelqu'un vous dit, c'est un des personnages qui le dit, c'est plus grand que nous, et pourtant ça reste quand même une prison, ils sont encerclés ces militants.
C'est vrai et c'est faux, enfin c'est faux dans le sens où finalement ils bougent énormément, c'est-à-dire qu'ils vont souvent d'une ZAD à une autre. Ils ont des, beaucoup de gens qui viennent d'extérieur, d'Amérique du Sud, d'Allemagne, beaucoup d'Européens. Ils ont énormément de connexions. En fait, c'est plus une grande toile d'araignée qu'un lieu clos. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment insister là-dessus pour dire que le fait que ça soit pas du tout une zone fermée, quoi.
Oui, nous, on s'est vraiment concentré sur la zone et sur cet espace géographique et les interactions entre les personnes. Mais dans la réalité, c'est une zone qui est plus ouverte. On donne juste quelques petits aperçus de circulation de personnages, mais nous, on le traite de manière relativement secondaire. Dans la réalité, c'est d'abord une zone qui accueille beaucoup des gens de l'extérieur, des gens comme Simon et moi. C'est peut-être plus difficile quand on est journaliste et qu'on arrive avec la casquette d'un journaliste sensationnaliste, parce qu'on va être reçu avec un peu de méfiance. Mais si on arrive comme auteur ou comme sympathisant ou comme ami, on est extrêmement bien accueilli. Il y a des zones d'accueil et de couchage pour les gens de l'extérieur. Il y a aussi beaucoup de relations avec le monde extérieur, avec les autres zones de lutte, comme disait Simon, avec les autres ZAD, et y compris avec les résistances syndicales. Par exemple, ils amènent des cagettes pour entretenir la lutte syndicale sur Nantes et ailleurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Thomas Hulos et Simon Rochepot, auteur de La ZAD, c'est plus grand que nous, édité chez Futuropolis. Parlons maintenant des personnages qui sont dans cette bande dessinée. Alors, le mot que l'on puisse dire, c'est que chacun vient avec son propre rêve. Hein. C'est-à-dire, c'est la multiplicité des personnages renvoie aussi au nombre de visions. Et aussi, c'est ça qui fait que cette bande dessinée n'est pas seulement sympathisante avec le mouvement, c'est que des fois, ces points de vue ne convergent pas.
C'était toute la difficulté, en fait, de faire la bande dessinée. Parce qu'au départ, moi, vraiment, j'étais parti sur un personnage qui nous donnerait, qui serait le fil conducteur du livre et finalement qui aurait un seul regard. Et puis quand on a eu des discussions ensuite avec Thomas, quand il a passé du temps sur la ZAD, il a vraiment approfondi les personnages qui étaient d'abord secondaires pour leur donner vraiment une consistance dans le livre.
En fait, je me suis dit que l'enjeu de faire une bande dessinée sur la ZAD, c'était aussi narrativement de faire vivre plusieurs personnages au premier plan et de faire un récit polyphonique, si on peut dire, et qu'il fallait sortir du parcours d'un seul personnage qui traverserait l'histoire de la ZAD. Ça a été une discussion entre autres avec quelques amis de la ZAD qui disaient ce serait peut-être dommage de rester sur vraiment des individualités trop restreintes. Et du coup, moi, je l'ai traduit dans mes termes à moi de bande dessinée. Et je me suis dit que narrativement, il y avait un vrai enjeu à construire un récit collectif. Et aussi pour montrer, parce que ça fait partie du frottement et de tout l'intérêt pour moi de la ZAD, c'est les moments où la ZAD sait être très inclusive, c'est-à-dire accueillir tout le monde, et les moments où cette qualité peut devenir une difficulté dans les moments de tension, parce que des fois les enjeux de chaque personne, chaque personnage, sont tellement différents que dans les moments de crise, c'est difficile de les faire converger et de se bagarrer dans le même sens. Ça s'est reproduit au moment des expulsions en 2018. Il y avait à nouveau des tensions qui sont ressorties.
Entre qui et qui, généralement ?
C'est difficile à dire. J'aurais peur de trop caricaturer, mais disons entre les gens qui sont prêts, d'une certaine manière, à faire évoluer la lutte Y compris avec certains compromis, par exemple sur la question agricole, sur le fait de mettre son nom en haut d'un papier, et des gens qui seront qui entre guillemets ne lâcheront rien, c'est-à-dire qui ont décidé que de toute façon on ne signera jamais aucun papier avec l'État.
Donc, qui sont dans la radicalité, on peut le dire.
Dans oui. la radicalité. Oui. Alors après, la radicalité, c'est une notion qui est un peu difficile à établir. On est toujours plus radicaux que quelqu'un d'autre et moins radical que quelqu'un d'autre et plus radical que quelqu'un d'autre. C'est toujours difficile de dire. Et puis, il y a des moments où la lutte ne peut pas avancer si on n'est pas prêt à certains compromis, où la lutte s'enferme et s'enterre.
Oui, Simon Rochepot, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, on peut, c'est vrai qu'on va rapidement tomber dans la caricature, mais entre eux, certains se traitent de bourgeois, bon, pour les gens qui sont dans l'installation, qui sont dans un projet sur du long terme, et les arrachés qui se retrouvent là parce que on les a exclus de la société ailleurs et qui trouvent aussi ici un intérêt à la lutte. Et en fait, tous ces gens-là, quand même, sont unis au moment où ils ont un ennemi commun, quoi. Et ils sont ensemble et ils font très attention. Ils font très attention les uns aux autres, en fait. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à exacerber ce qui se passe sur Azad, mais c'est au bout de longues heures de discussion qu'on en arrive aux mains quand même. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dialogue permanent, quoi.
Et puis enfin, pour parler des doutes, des moments de doute qui traversent certains personnages de la ZAD, c'est plus grand que nous, ce sont des doutes que vous avez pu vivre vous-même. Est-ce que vous vous êtes posé des questions en disant, est-ce que cette radicalité, ce combat, cet assemblage de plusieurs envies pas toujours compatibles les unes aux autres, est-ce que tout ça, ça a aussi traversé votre vécu quand vous étiez dans la ZAD de Notre-Dame?
Beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'y va pas sans se poser des questions et on essaye de... Bon, enfin, on ne trouve pas forcément les réponses à nos questions, mais moi, le fait de vivre en communauté, en fait, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. J'ai déjà du mal à vivre en famille, donc j'essayais de savoir comment des gens du même âge pouvaient vivre entre eux, quasiment 24 heures sur 24. Voilà, c'était des... Ouais. Et bon, il faut savoir qu'ils ont chacun aussi des espaces un peu plus privés où ils peuvent s'isoler, mais chacun des zadistes traverse sa crise, forcément, quoi.
Et Thomas Azulas ?
Moi, je sais pas si je vais parler directement de mes doutes. En tout cas, ce qui m'a le plus marqué, peut-être, c'est de découvrir comment se construit, comment s'élabore un mouvement aussi important, quand même, parce qu'on parle au moins, disons, de 250 personnes de manière un peu stable. Un mouvement anti-autoritaire, de quelle manière ce mouvement peut avoir du mal parfois à faire sa propre, je vais utiliser des gros mots, mais sa propre police et sa propre justice. La difficulté, justement, pour un mouvement qui a refusé une forme d'autorité, à réendosser, à réassumer une forme d'autorité dans certains moments de crise. Et le fait que la volonté d'être très inclusif et d'accepter tout le monde... aussi sur le principe de faire tous ensemble, d'agir tous ensemble, de construire un bien commun tous ensemble, peut être mis en difficulté quand certains individus peuvent devenir peuvent avoir des intérêts contraires aux intérêts collectifs et deviennent entre guillemets nocifs à l'ensemble d'un mouvement. Et la difficulté peut avoir ce mouvement à gérer des situations difficiles comme ça. Mais disons que j'ai trouvé très enthousiasmant et très touchant. J'ai trouvé ça très touchant, la manière dont un mouvement comme ça réussissait à dépasser ces contradictions qui, moi, a priori, m'auraient paru un peu insolubles. Et en réalité, il y a une telle force, telle volonté de vivre ensemble et de dépasser ces différences-là et de faire coûte que coûte ensemble que j'ai trouvé ça vraiment admirable, la patience des habitants de la ZAD à en permanence discuter et rediscuter et aller voir un tel pour rediscuter le coup avec lui. Et enfin, vraiment, il y a une endurance qui est très, très impressionnante.
Et une vie en société possible dans la ZAD de Notre-Dame où c'était un terrain de lutte symbolique et qui a attiré du monde de partout, où ce sont des gens qui réellement ont cette envie ou cette utopie de vivre ensemble sur cette terre-là.
Moi, j'ai trouvé que c'est des gens qui vivaient réellement et très intensément le quotidien et ce qui est le plus...
Mais le temps d'un combat ou le temps d'une vie ?
Non, le temps, en tout cas, moi je le vois sur l'échelle de quelques années parce que les gens que j'ai rencontrés, ils vivent pour certains depuis 2012-2013, depuis la période qu'on raconte dans la BD. Ils vivent très intensément le quotidien et ce qui est très impressionnant, c'est la manière dont la question politique et la question quotidienne, et ces deux questions sont complètement entremêlées. C'est-à-dire que les simples relations de voisinage sont déjà en soi des questions politiques. Et que finalement, tout devient politique. Les actes et les paroles sont politiques au quotidien. Et dans le simple fait de se frotter à des gens différents... C'est déjà...
Mais attention, Thomas Azulas, vous me donnez pas du tout envie d'aller là-bas. Si à chaque fois, pour prendre mon café, pour dire bonjour aux voisins, je dois passer par la politique...
Après, bien sûr, dans notre BD, on donne aussi un concentré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va... Et puis on se concentre sur une période qui a été particulièrement intense, qui est le moment où les gendarmes s'en vont en 2013. Donc, où les choses s'établissent, où la vie s'organise. Donc évidemment qu'il y a une espèce d'accélération à ce moment-là de difficultés et de frottements qui après va s'apaiser totalement pendant de très longues périodes. Mais moi, ces frottements, pour moi, les raconter n'étaient pas du tout montrer la vie horrible de la ZAD et mon Dieu, regardez comme c'est fatigant et comme c'est tendu de vivre à la ZAD. Au contraire, pour moi, j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de plus touchant et de plus beau, parce que c'est
des gens qui n'avez pas décidé de vous installer vous et votre famille là-bas pour autant.
Non, il a failli.
Ah, il s'est posé la question, je crois.
Je me suis pas posé la question pour aujourd'hui. Je dirais que c'est peut-être trop tard. Puis j'ai des enfants qui sont installés à Marseille et tout ça. Mais très sincèrement, moi, cet investissement-là au quotidien, non seulement je le comprends, mais il me touche beaucoup.
Comment on en sort de cette ZAD?
On y sort avec l'envie d'y retourner.
Et aujourd'hui, déjà, elle ressemble à quoi, la ZAD de Notre-Dame?
Aujourd'hui?
Maintenant que ce n'est plus l'actualité.
J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. En fait, il y a quelque chose de très apaisé, évidemment. Enfin, apaisé dans le sens où maintenant, ils vont pouvoir vraiment penser à leur installation sur du long terme, quoi. Donc il y a toujours, évidemment, des frictions, etc. Donc on va voir comment ça va.
Je dirais même que les problèmes commencent aujourd'hui, non?
Qui peut répondre à la question?
Moi, je sais pas, je m'avancerai pas trop parce que les cartes sont tellement en train d'être redistribuées que c'est vraiment très difficile de. En tout cas, la pression de l'État, la pression de la préfecture est très forte. Donc, c'est difficile quand même. Mais c'est un moment où la lutte doit se transformer pour évoluer. Obligatoirement, elle doit se transformer.
C'est le moment de rappeler le titre de la bande dessinée La ZAD, c'est plus grand que nous. C'est sorti chez Futuropolis cette semaine. Merci Thomas Azulas et Simon Rochepot d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci.
Merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin. Comment fait-on pour inventer une nouvelle langue? Tolkien a toujours considéré que son grand œuvre était la langue des elfes. Comment ferait-on pour parler à un alien? Allons y voir d'un petit peu plus près. Langues et imaginaires, la méthode scientifique, ce vendredi à 16h et sur franceculture.fr. Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du bel air.
Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis dans Co Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio, tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à toutes et tous. Trois avocats ont déposé plainte devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU face à l'inaction française pour rapatrier les enfants de djihadistes, disent-ils. Notre envoyé spécial est à la frontière irako-syrienne en ce moment. Il nous dressera le portrait d'une femme qui a vécu sous l'autorité du groupe État islamique en Syrie. Dans ce journal, nous nous intéresserons aux Philippines où le président Duterte n'hésite pas à tuer ceux qui luttent pour défendre les droits de l'homme dans le pays. Un rapport publié hier est accablant. Et puis vous entendrez le ministre de la culture, Franck Riester. Il était hier à Milan avec son homologue italien pour résoudre la querelle autour des œuvres picturales de Léonard de Vinci. Un accord sera trouvé, dit-il à France Culture. Et l'on commence donc par ce reportage qui nous vient d'un camp au Kurdistan irakien. À quelques kilomètres de là, des milliers de civils syriens continuent de fuir la région de Baghouz en Syrie, dernière poche du groupe État islamique situé près de la frontière irakienne. Parmi ces civils, des familles de djihadistes, mais aussi d'anciennes esclaves yézidis de Daesh. Elles tentent de se reconstruire en Irak, dans les camps du Kurdistan irakien. Un retour difficile que certaines supportent difficilement, car elles ont été convertis à l'islam parfois de force et semblent maintenant souffrir d'un syndrome de Stockholm qui leur ferait regretter leur bourreau. C'est un reportage de Mathieu Mondoloni.
Il y a un mois maintenant que Zena, yézidi de 29 ans, a quitté la région de Baghouz. Mais ce n'est pas l'État islamique qu'elle a voulu fuir, ce sont les bombardements de la coalition anti-djihadiste. Elle dit qu'elle aurait préféré rester, que la vie sous Daesh n'était pas si dure.
C'était bien, au début j'étais la bonne, je travaillais, mais après je n'avais plus le statut d'esclave. Les djihadistes m'ont donné les mêmes droits que les autres. Je me suis mariée, je ne travaillais plus pour les autres, j'avais ma propre maison.
Elle jure que si elle retrouve son mari, lui aussi converti, elle le rejoindra. Où qu'il soit, elle ne garde en mémoire que les bons souvenirs, elle occulte les mauvais. Et pourtant, ils sont nombreux, raconte Dounia de l'ONG Elis Care, à qui Zena s'est confiée lors de son arrivée dans le camp.
Elle a souffert au début quand elle était esclave. Elle a été vendue deux fois, il y avait la prière obligatoire, les leçons sur le Coran, l'obligation de se convertir. Et surtout, elle était torturée par les djihadistes et par leurs femmes qui la frappaient avec des bâtons, lui donnaient des gifles et des coups. Mais après le mariage, elle a tout oublié. Et maintenant, elle dit que sa vie sous Daesh était bien.
Repoussées par leur famille car converties, ces femmes regrettent leur vie dans le califat. Elles sont imprégnées par l'idéologie de l'État islamique. Un État désormais moribond, mais qui, à travers elles, ne demande qu'à renaître.
Un reportage de Mathieu Mondoloni avec Eric Audra à la frontière irako-syrienne. La Syrie et Baghouz encore, où a été tué le djihadiste français Fabien Klein. Hier soir, la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis a confirmé cette information. Fabien Klein avait mis sa voix sur la revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. En Israël, la perspective de poursuite judiciaire contre le Premier ministre semble de plus en plus concrète. Le procureur général a l'intention d'inculper Benjamin Netanyahou pour des faits de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Mais il laisse avant cela la possibilité au Premier ministre de s'expliquer devant lui. Benjamin Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières alors que les élections législatives anticipées ont lieu dans 40 jours en Israël. La guerre du président philippin Rodrigo Duterte contre les défenseurs des droits de l'homme est de plus en plus meurtrière. C'est ce que prouve le rapport que viennent de publier l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, ainsi que l'Organisation mondiale contre la torture. Leur rapport démontre une dégradation spectaculaire aux Philippines depuis 2016. Preuve à l'appui, Nadine Epstein.
Il y a moins de deux mois, Randy Félix Malayao était abattu par un inconnu dans un autobus qui le ramenait chez lui dans la province d'Isabela, au nord de l'archipel. Malayao, défenseur des droits humains, était consultant de la paix du Front national démocratique des Philippines dans les négociations avec le gouvernement. Il avait été porte-parole pendant les négociations en Europe en 2016. En février 2018, comme 650 autres personnes, le militant politique avait été accusé de terrorisme et placé sur une liste noire du ministère de la Justice. Puis en janvier de cette année, le tribunal régional de Manille avait annulé cette sanction. Trop tard, trois semaines après, Randy Félix Malayao était tué de sang-froid. Son meurtre grossit le nombre d'agressions, d'assassinats et d'exécutions extrajudiciaires en augmentation continue depuis l'arrivée à la présidence de Rodrigo Duterte. Dans leur dernier rapport, trois ONG établissent qu'au moins 8 militants des droits des travailleurs, 76 défenseurs de l'environnement et 12 journalistes ont été assassinés entre juillet 2016 et novembre 2018. Il y a aussi des juges, des avocats, des représentants de communautés indigènes qui sont victimes. Comme cette sénatrice, Laila de Lima, détenue sans procès depuis 2 ans pour des charges montées de toutes pièces. Rares sont les poursuites qui mènent à un procès. L'impunité, l'abus de pouvoir et la corruption prévalent. Sans oublier les disparition forcée de centaines de Philippins. C'est pourquoi la Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire sur cette guerre contre la drogue menée par le président Philippin.
Les opposants à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie se mobilisent à nouveau ce vendredi. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes du pays. Hier, une dizaine de journalistes ont été détenus durant plusieurs heures avant d'être libérés. Le président de la République sera face à des élus de Gironde ce matin. Un échange qui s'inscrit dans le cadre du grand débat national. Avant cela, aux alentours de 8h45, Emmanuel Macron doit petit-déjeuner avec Alain Juppé, maire de Bordeaux, jusqu'à ce vendredi, avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Notez par ailleurs qu'hier soir, Emmanuel Macron s'est déjà invité à un débat citoyen, un débat de femmes organisé à Pessac, près de Bordeaux. Prise à partie par l'une d'elles, qui voulait lui offrir un collier en forme de gilet jaune, le chef de l'État a refusé. Il a préféré mettre en avant les réponses apportées par l'exécutif depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Un nouvel accord sera négocié entre les musées italiens et français à propos de la collection d'œuvres de Léonard de Vinci. La sous-secrétaire d'État à la culture italienne, membre du parti d'extrême droite au pouvoir, avait en fin d'année dernière estimé que Léonard de Vinci devait rester en Italie, ses œuvres également, et ne pas être exposées toutes au Louvre à l'automne prochain pour les 500 ans de la mort du peintre. Hier, le ministre français Franck Riester a rencontré son homologue à Milan, jouant l'apaisement. Franck Riester s'en est expliqué au téléphone de Cécile de Kervas-Doué.
La culture, ça rassemble. Ça rassemble les gens qui parfois s'opposent, surtout. Et donc, on va essayer de démontrer, là, avec mon homologue, en tout cas, c'est ce qu'on a décidé, de travailler à démontrer que, effectivement, une fois de plus, la culture rassemble nos deux peuples, qui sont des peuples amis, pour, encore une fois, au service de l'exposition de ces œuvres au public le plus large. Alors, il n'y aura peut-être pas toutes les œuvres que l'Italie souhaite avoir, que la France souhaite avoir. Mais on va regarder très concrètement ce qui est possible de faire et on fera le maximum pour que les prêts puissent être réalisés. Mais il n'y a absolument pas eu de dimension pécuniaire à nos discussions. On était vraiment sur de la technique, du scientifique, capacité à transporter. Et on sait bien qu'il y a des techniques sur tel ou tel support qui font que ces œuvres sont plus fragiles, donc ne peuvent pas être transportées. Capacité à être disponible aussi, tout simplement, parce qu'après, il y a toute une grande saison culturelle 2019 en Italie autour de Léonard et en 2020 autour de Raphaël Enfant. Donc il y a forcément des moments où les tableaux ne seront pas forcément disponibles. Donc c'est tout ça qu'on va mettre noir sur blanc sur la table dans l'intérêt de la mise en valeur de grands artistes et de leurs œuvres que sont Léonard et Raphaël.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, joint par Cécile de Kervas-Doué. Il était le dernier survivant du massacre de Tulle en 1944. Jean Viacroze est décédé à l'âge de 104 ans cette semaine. Le 9 juin 1944, un jour avant Oradour-sur-Glane, il avait vécu la tuerie de masse à Tulle, des otages pendus par dizaines dans les rues de la ville. Il a ensuite vécu l'enfer des camps de la mort. L'historien de la résistance Fabrice Grenard l'avait rencontré et il avait écouté son récit dans les camps.
L'histoire de Jean Villacreuse, c'est aussi l'histoire terrible d'un déporté, puisque s'il a échappé donc aux pendaisons, au massacre du 9 juin, il a fait partie en revanche des 149 tullistes qui ont été déportés vers l'Allemagne. Et Jean Villacreuse a vécu au cours de cette déportation l'enfer. Il a fait partie d'un train de sinistre mémoire qui est parti de Compiègne début juillet, surnommé le train de la mort, parce que sur les 2500 déportés, il y en a plus de 1000 qui sont morts au cours du transport. Et Jean Villacreuse était dans un wagon où il faisait partie seulement des 5 survivants à l'arrivée au camp de de Dachau. Il a fait l'objet de plusieurs expériences médicales. Il a été opéré à vif même. Il a survécu à tout ça. Et voilà, c'est le dernier témoin qui s'en va. Et il va falloir trouver un moyen maintenant de continuer à ce que leur témoignage soit toujours diffusé et à ce que leur message aussi aux jeunes générations puisse toujours être transmis.
L'historien Fabrice Grenard, auteur du livre « Tulle, enquête sur un massacre », il répondait à Roméo Van Maastricht. La perturbation pluvieuse se dirige vers le nord-est du pays ce matin avec un ciel bien chargé. Ailleurs, la matinée sera grise, puis ensoleillée sur le sud de la France. Comptez ce matin 8 degrés à Lille et à Besançon, 10 à Paris et à Nantes, 11 degrés dans la matinée à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 15 degrés la maximale, ce sera à Marseille et à Bastia. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Votre journal des idées sur France Culture à 7h06 sur le mouvement des Gilets jaunes, Jacques. Le quotidien Le Monde ouvre ses pages idées au débat entre intellectuels de gauche.
Oui, Nicolas Truong cite un texte à paraître d'Alain Badiou, une tribune à contre-courant de son camp, particulièrement révélatrice du conflit des interprétations qui se développe. Pour le philosophe, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas révolutionnaire, mais bien réactionnaire, comme l'était pour Marx en 1848, la classe moyenne qui combattait la bourgeoisie, car une légitime colère contre la vie chère ne rend pas mécaniquement une insurrection révolutionnaire. Et une révolution peut être aussi bien rouge que brune, sociale que nationale. Ce qu'il résume dans cette formule, tout ce qui bouge n'est pas rouge. Car l'émeute en elle-même n'est pas émancipatrice, soulignait l'historien Patrick Boucheron, aussitôt critiqué par son collègue Gérard Noiriel, spécialiste des mouvements populaires, pour son manque de compassion pour la misère sociale que ce mouvement a révélée. Ludivine Bantigny estime quant à elle que ce mouvement a bien une portée émancipatrice. Ses participantes et participants s'engagent pour la justice fiscale et sociale, réfléchissent à ce que pourrait être une démocratie plus vivante où chacun et chacune se sentirait vraiment représenté. Et elle récuse les tentatives de le ramener à des précédents historiques, 1789, 1848, 1871 ou 1968, pour laisser à l'événement sa dimension de surgissement, sa part d'inattendu et sa singularité. Tout ce qui s'écrit au dos des gilets dessine un récit politique inédit, ajoute-t-elle. Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques. C'est une formulation d'une réelle acuité. Le politique n'est pas réservé aux gouvernants, il est un bien commun, res publica. Se référant aux déclarations convergentes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le mouvement, Romain Goupil considère pour sa part que la collusion entre le jaune, le rouge et le brun devient une réelle menace pour la démocratie. Tous surfent sur l'anonymat des réseaux sociaux qui permettent l'insulte, les menaces et la propagation de la haine. À propos du slogan proféré dans les rangs des manifestants « On est chez nous », il rappelle que c'est tout le contraire qui s'est passé en mai 68. Universaliste, solidaire des opprimés, héritier des résistants, révulsé par le souvenir de la barbarie nazie, nous étions avant tout des antifascistes et nous étions tous des juifs allemands. Pour Patrice Maniglier, le mouvement des Gilets jaunes est le premier mouvement social français depuis mai 68, voire depuis la fin de la guerre d'Algérie, a manifesté un authentique potentiel révolutionnaire. Selon le philosophe, le fait qu'il agrège des identités sociales, culturelles et idéologiques suffisamment hétérogènes pour qu'on ne sache plus qui est susceptible de le rejoindre, lui confère un caractère de masse que Gramsci avait à l'esprit lorsqu'il parlait d'hégémonie pour désigner ce phénomène par lequel, au cours d'un processus révolutionnaire, les éléments d'une classe particulière, il pensait aux ouvriers russes de 1917, prennent en charge aussi les intérêts de classe d'autres segments de la population, ainsi de la paysannerie russe. Conclusion, si le mouvement des Gilets jaunes prétend incarner le peuple, ce n'est pas parce qu'il est majoritaire, mais parce qu'il est indéfini. Indéfini, mais pas forcément non identifié, comme le montre une étude de la Fondation Jean Jaurès. Si les femmes Gilets jaunes exercent souvent des métiers liés au service à la personne, chez les hommes, la présence des charistes dans le mouvement est très révélatrice des effets de la désindustrialisation. Le care, d'un côté, les charistes, soit les conducteurs d'engins de manutention, de l'autre, l'économie des services et la logistique illustrent la descente en gamme des emplois populaires. Du coup, le gilet jaune peut apparaître comme le nouveau bleu de travail, et c'est ce qu'il est, effectivement, pour nombre d'entre les manutentionnaires, livreurs ou chauffeurs routiers. Le Le point commun entre ces métiers, c'est la pénibilité. Et il n'est pas étonnant que leurs emblèmes soient recyclés dans le mouvement. Véritable couteau suisse de la mobilisation, les palettes ont été détournées de leur fonction d'entreposage et utilisées comme barrage, comme combustible pour alimenter les feux allumés dans les campements ou encore comme matériau de construction des cabanes qui ont été érigées sur les ronds-points. Les pages débat de l'Humanité posent avec Daniel Tartakovsky la question du recours à la manifestation comme moyen d'expression et d'action collective. Jérôme Lèbre estime qu'à côté des traditionnels défis, les blocages ou occupations ont renouvelé le répertoire. Le philosophe évoque Occupy Wall Street ou Nuit debout, les nouveaux modes d'habitation à Notre-Dame-des-Landes et autres ZAD et les ronds-points. Plutôt que de figurer un aller vert qui n'atteint pas son objectif et se disperse à l'heure prévue, il vaut mieux manifester son droit à être là, à tenir une position dans ce monde. 6h45, à la seconde près. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Alors sur France Culture, on rejoint les enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Il s'en passe des choses au sud des Maldives.
Et oui, depuis le début de la semaine, c'est un peu l'effervescence, puisque la Cour internationale de justice a décidé que le Royaume-Uni devait mettre fin, je cite, « rapidement à son administration sur les îles Chagos ». C'est un des derniers territoires post-coloniaux et un avant-poste ultra-stratégique en plein océan Indien, revendiqué par l'île Maurice et par ses habitants aussi déportés à l'époque, les Chagossiens. Bonjour André Oraison.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone en direct depuis La Réunion. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de La Réunion, spécialiste des problèmes de décolonisation, également, je crois, conseiller juridique du comité Solidarité Chagos La Réunion. Alors, le problème, c'est, pour le dire rapidement, de 1967 à 73, près de 2000 habitants de l'archipel qui ont été déplacés, déportés vers l'île Maurice pour faire place nette à une base militaire louée en partie aux États-Unis. C'est l'Assemblée Générale de l'ONU qui a avait sollicité l'avis de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que vous retenez d'abord dans cette décision ? Recul de l'influence géopolitique du Royaume-Uni ou victoire du droit des peuples ?
Alors, dans cette affaire, vous avez très bien résumé la situation. Je crois qu'il faut dire que c'est une victoire, si vous voulez, d'abord du droit international public que l'on applique, que la Cour internationale de justice de La Haye a appliqué, parce qu'elle a fait prévaloir le principe, notamment, de l'intangibilité des frontières coloniales. L'idée, c'est que dans l'avis consultatif qui a été rendu par la Cour de La Haye le 25 février 2019, vous l'avez dit au début de la semaine passée, la Cour de La Haye a constaté que la décolonisation de l'archipel de Maurice n'avait pas été faite conformément au droit international, dans la mesure où la Grande-Bretagne avait détaché l'archipel des Chagos, ce qu'elle ne pouvait pas faire, avant d'accorder l'indépendance à l'île Maurice le 12 mars 1968. Ça, c'est un acquis, il faut le préciser, cet avis a été rendu à la quasi-unanimité des juges. Oui. 13 voix contre une, la seule voix qui a été contre, c'est la voix de la juge américaine.
Oui. Et donc là, on aurait la reconnaissance d'un certain nombre de résolutions ONU, notamment la 1514 de 1960, qui interdit le démembrement d'un territoire colonial, je cite. Mais justement, comment ça se fait qu'on a eu une bataille judiciaire de très longue haleine, souvent portée par des exilés ou descendants d'exilés chagossiens, Olivier Bancou nommément, comment ça se fait qu'on en soit passé à une bataille diplomatique récemment et qu'elle ait fini par porter ses fruits, disons ?
Eh bien, je crois que l'affaire a mûri progressivement. Vous comprenez, à Maurice, il faut le savoir, les dirigeants mauriciens de l'époque, en 1965, ont été plus ou moins complices de la cession de l'archipel des Chagos à la Grande-Bretagne pour obtenir une indépendance plus rapide. Et donc, elle a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre, si vous voulez, qu'à Maurice, même cette équipe dirigeante mauricienne avait en quelque sorte été, comment dirais-je, incitée à, par la force, par la contrainte, à négocier cette cession de l'archipel de Chagos pour dire indépendance, ce qui est interdit, puisque la Grande-Bretagne aurait dû tout simplement faire accéder l'indépendance Maurice sans lui amputer son archipel des Chagos. Mmh. Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de procès qui ont été portés par les Chagossiens devant les tribunaux juridiques britanniques, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils n'ont pas donné jusqu'à présent de bons résultats parce que les revendications des Chagossiens ont été chaque fois rejetées parce que il est vrai que ces juridictions-là n'appliquaient pas le droit international public de la décolonisation. Oui. C'est parce qu'il y avait tous ces échecs-là que finalement, Maurice a dit qu'il fallait porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye. Mais comme elle ne pouvait pas la porter au plan contentieux, c'est-à-dire obliger la Grande-Bretagne a accepté de porter l'affaire devant la Cour de La Haye, oui. la Grande-Bretagne ayant conscience qu'elle perdrait son procès. La Maurice a donc été obligée d'utiliser un subterfuge, c'est-à-dire de demander à l'Assemblée générale de se substituer à elle pour demander à la Cour internationale de justice pour savoir si la décolonisation de Maurice avait été faite conformément au droit international par la Grande-Bretagne.
Oui, donc le gouvernement mauricien qui tarde à s'en mêler, qui reste un peu prudent de la même manière que l'ONU avait été relativement prudente dans sa résolution là en 1965 quand elle invitait le Royaume-Uni à se conformer et oui. Priait le comité spécial. Là, c'est un peu plus fort comme résolution. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y avait quand même un consensus politique impossible à l'ONU si on est allé jusqu'au tribunal?
Disons que, vous le savez, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies, une majorité de pays issus de la décolonisation, des pays d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie, et ce sont eux surtout qui se battent pour la décolonisation. Ils sont majoritaires. Et donc, la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 22 juin 2017 a été adoptée à une très large majorité.
Ouais, 94 États en soutien, voilà. 15 seulement pour le Royaume-Uni et 65
voilà.
Abstentions.
Voilà, donc c'est pour montrer que l'Assemblée générale, elle se bat depuis plusieurs décennies, depuis le vote de la résolution 1514 dont vous avez parlé tout à l'heure, pour que le monde entier soit décolonisé. Et c'est dans cet état d'esprit qu'elle a demandé un avis consultatif à la Cour.
Oui.
Je précise quand même que la Cour de La Haye a rendu un avis consultatif, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas un arrêt qui aurait force obligatoire.
Et alors,
il ne lit pas la Grande-Bretagne.
Justement, quelles conséquences il pourrait avoir? Il y avait un chercheur qui parlait d'un avis, un chercheur à La Haye, d'un avis pivot en ce qui concernait, je cite, la portée du droit à l'autodétermination et à la décolonisation. Vous pensez que ça peut créer un précédent, sachant que dans l'océan Indien, il y a une autre affaire, c'est celle de Mayotte et des Comores?
Oui, alors avant de répondre à cette question qui est tout à fait pertinente, je précise bien que, bien qu'étant un avis consultatif, la solution qui est donnée par la Cour de La Haye le 25 février 2019 aura quand même d'abord une grande valeur scientifique, parce qu'elle a été rendue sur la base du droit international positif, du droit international de la décolonisation, en application de l'article 38 du statut de la CIJ. Il a été rendu, en effet, par des juristes qui ont des compétences notoires en droit international.
Donc vous voulez dire une arme juridique réutilisable, en quelque sorte?
Oui, et plus encore, cet avis consultatif a également une haute autorité morale, parce qu'il a été adopté à la quasi-unanimité des juges de La Haye, ce qui montre bien que, dans cette affaire, il est clair, aujourd'hui, pour les Nations Unies, pour tous les pays, que la Grande-Bretagne n'a pas décolonisé de manière correcte son ancienne colonie de l'île Maurice.
Même si elle ne doit pas, comme vous l'avez dit, s'y conformer, alors qu'est-ce que...
Voilà la question, c'est que si l'Assemblée Générale a demandé un avis consultatif à la Cour, c'est pour pouvoir ensuite agir librement. Maintenant que l'Assemblée Générale des Nations Unies est dotée de cet avis, qui fait 44 pages, qui est clair, qui montre bien les vices de forme de la décolonisation mauricienne par la Grande-Bretagne, elle va maintenant voter des résolutions pour demander à la Grande-Bretagne de tirer les conséquences de cet avis. Elle ne va pas rester inactive, voyez. Cela va avoir des répercussions au niveau même des Nations Unies.
Bon, et alors pour les conséquences à plus ou moins long terme, d'abord, conséquences concrètes pour les Chagos. Ils sont quelques milliers encore. Beaucoup veulent retourner sur cet archipel, notamment sur l'île de Diego Garcia, où se trouve la base qui est louée aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir y retourner à court terme?
Alors, bien entendu, les Chagossiens veulent, pour une partie d'entre eux, revenir au Chagos. Le gouvernement britannique, d'ailleurs, n'avait pas exclu cette possibilité jusqu'à la date du renouvellement du bail, hein, le 30 décembre 2016. Et il était prévu même de refaire venir les Chagossiens sur l'île principale des Chagos, qui est l'île des Hugo Garcia. En fait, sur la partie orientale des Hugo Garcia, qui n'est pas militarisée, la base militaire se trouve sur la partie occidentale de Diego Garcia. Et l'autre partie, la partie orientale, est en friche. C'est là que les Chagossiens pourraient être installés. Alors, c'est justement sur ce plan-là, la base militaire n'est pas en fait remise en cause. Je suis persuadé que les Américains voudront rester au cœur de l'océan Indien, qui occupe une position évidemment stratégique.
Oui, quand bien même Maurice récupérerait Diego Garcia. Oui,
oui. Je pense que l'île Maurice, d'ailleurs, a souvent déjà dit qu'il serait prêt à ne pas contester la base. S'il revenait souverain sur les Chagos, il demanderait plutôt un bail, moyennant des compensations financières, voyez, annuelles, ce qui serait tout à fait normal. Donc il y a deux problèmes au fond distincts. Le bail, à mon avis, pourrait être maintenu, et le retour des Chagossiens, lui, pourrait être décidé par les Britanniques, s'ils voulaient vraiment faire un geste qui, à mon avis, serait tout à fait normal, parce que, vous le savez, la déportation de tout un peuple chagossien entre 67 et 73, c'est un crime contre l'humanité.
Oui, et à l'époque, ça avait été effectivement, ça s'était passé de cette manière en quelques années. Toute dernière chose, il nous reste vraiment quelques secondes, mais qu'est-ce que ça impliquerait pour la France et Mayotte, sachant qu'il y a une résolution ONU suite de 1976 qui demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île de Mayotte?
Voilà une très bonne question auxquelles je réponds, c'est que, bien entendu, déjà, aux Comores et Madagascar, on s'interroge, on se dit, mais si Maurice a pu obtenir une condamnation de la Grande-Bretagne dans son processus de décolonisation d'île Maurice, pourquoi nous, Comoriens et Malgaches, n'en ferions pas autant? Donc les Comoriens et les Malgaches pourraient être tentés de demander à l'Assemblée Générale, de demander un avis consultatif pour savoir si la décolonisation des Comores et des Madagascar par la France a bien été conforme au droit international. Vous voyez, ça pourrait faire boule de neige.
Eh bien, écoutez, affaire à suivre, en tout cas, c'est sûr, ce sera dans les prochains jours, les prochains mois, et passionnant dans l'océan Indien. Merci beaucoup, André Oraison, pour vos explications aujourd'hui. On renverra aussi à vos articles nombreux sur le sujet. Et puis, bonne journée à La Réunion, alors.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France.
Voilà, surtout n'ayez pas peur, il est 6h57 sur France Culture.
Peur.
Il est 6h57 et c'est l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Et on n'a pas peur parce que ce que vous faites est formidable.
Mais oui, absolument, vous aussi Xavier, ce que vous faites est absolument merveilleux parce que nous sommes le vendredi 1er mars et le vendredi 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. C'est le Parisien qui me l'apprend, après tout, pourquoi pas, hein. Il existe des journées mondiales d'à peu près tout et n'importe quoi. Le 17 février, c'est la journée mondiale du pangolin. Le 15 mars, la journée mondiale de la lutte contre les violences policières. Et le 16 mars, la semaine, pourquoi la semaine, j'en sais rien, de la courtoisie au volant. Donc aujourd'hui, vous devez complimenter vos prochains. Une journée, à mon avis, des plus utiles. Les pangolins ne nous en voudront pas, puisque le propre du contemporain, c'est d'être obsédé par le regard social. Alors, ce besoin d'être complimenté par l'autre a été pensé dans la sociologie moderne par un sociologue américain, David Riesman, l'auteur de l'un des plus grands best-sellers sociologiques, La foule solitaire, publié en 1950. Dans cet ouvrage, Riesman expliquait que nous sommes passés d'un type de société à un autre, d'une société où l'individu était dirigé depuis son fort intérieur, dirigé par un principe interne, sa conscience, son surmoi, appelez-le comme vous voudrez, un principe organisé par la tradition, et donc il n'avait besoin de personne, il tenait debout, un peu selon le principe du gyroscope. Avec l'époque actuelle, explique Riesman, l'individu est de plus en plus tourné vers les autres. Il est passé de l'ère du gyroscope au principe du radar. Alors, non pas évidemment que l'humanité soit passée de l'égoïsme à l'altruisme, mais parce que le principe qui guide l'humanité désormais, ce n'est plus un principe interne, mais un principe externe. Qu'est-ce que les autres pensent de moi ? Qu'est-ce que les autres pensent de moi est la question qui passionne désormais les êtres humains, explique Riesman. D'où ce besoin d'être complimenté, de partir à la chasse aux compliments. Vous savez, on dit « fishing for compliments ». En anglais, bref, faites-moi un compliment, cela me fera la journée. Et c'est pour cela que cette journée mondiale du compliment devrait être accueillie comme une bénédiction par une humanité qui doute. Alors s'il vous plaît, vous les auditeurs qui êtes grands, faites des compliments à vos proches, suppliez-les d'en faire, faites de votre prochain un dieu, puisque oui, ce 1er mars, c'est aussi la journée mondiale de la prière.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
À trois mois de l'élection européenne à laquelle 55% des Français comptent s'abstenir selon un récent sondage de l'IFOP, un intellectuel clame encore son amour pour une Europe unie. Il le fait sur scène, c'est Bernard-Henri Lévy. Il sera notre invité aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture.